Eh bien, bienvenue à tous les nouveaux, à ceux qui nous visitent, bienvenue à ceux qui nous écoutent sur l'Internet, soit en direct ou cette semaine en écoute. Et j'aimerais vous dire qu'on a commencé une série dans le livre de Jonas dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Si vous venez juste de vous joindre à nous, vous pouvez toujours soit acheter le CD ou écouter directement sur l'Internet, c'est gratuit. Sur l'Internet, vous n'avez pas de problème pour vous mettre à jour. Et ce matin, on va tourner dans un magnifique passage, le deuxième chapitre de Jonas. Et je vais demander à Dominique si elle veut bien venir pour lire ce passage.
Donc, Jonas 2, prière de Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais « Je suis chassé loin de ton regard ». Mais je verrai encore ton Saint-Temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent Dieu de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre.
Eh bien, merci beaucoup. Maintenant, le livre de Jonas est un très petit livre, juste 4 chapitres. Mais juste dans ce petit livre, on peut déjà découvrir de belles choses sur Dieu. Court livre, mais de belles choses sur Dieu. Par exemple, on peut découvrir en premier la sainteté de Dieu. Comment Dieu est saint. Et il est digne de notre adoration. Par exemple, Jonas au chapitre 1, verset 1, il est dit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi. » Va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu appelle Jonas qu'il aille livrer un message de jugement à cette grande ville qui est la ville de Nénive. Dieu dit, son péché est grand. Alors, ce qu'on voit, c'est que le destin de cette ville est vraiment entre les mains de Dieu. Dieu va décider de son destin. Selon l'attitude et la repentance et l'humilité de cette nation. On voit la puissance de Dieu qu'il contrôle le destin de cette ville. Des milliers d'habitants seront déterminés selon l'attitude et la réaction au message que Jonas va livrer dans cette ville. Non seulement qu'on apprend que Dieu est saint, mais on apprend aussi que Dieu est souverain. Incroyable ce qu'on voit juste dans 4 chapitres. On voit dans chapitre 1, verset 4, « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. » Plus loin, Dieu envoie un grand poisson pour prendre Jonas dans la mer. Alors, on voit qu'il contrôle la nature, il contrôle la tempête, il contrôle la nature. Il donne l'ordre même au poisson de rejeter Jonas. Lorsque Jonas aura appris sa leçon, son principe, un principe important qu'on va voir ce matin. Au chapitre 4, on voit Dieu pousser un arbre, faire pousser un arbre, une plante qui va dépasser Jonas pour lui donner de l'ombre. Le lendemain, Dieu fait venir, donne un ordre à un ver pour que le ver se rende à l'arbre, la plante, mange la plante et elle se dessèche. Et il fait souffler un vent chaud de l'est. Alors Dieu envoie la tempête, il calme la tempête, il leur donne un grand poisson d'avaler Jonas. Il leur donne ensuite au grand poisson d'emmener Jonas sur la terre sèche.
Il fait pousser un arbre très vite pour donner de l'ombre à Jonas. Le lendemain, il leur donne un verre de venir et manger l'arbre. Il fait souffler le vent chaud de l'est. Alors oui, on voit dans le livre de Jonas que on voit la grandeur de Dieu. Et Dieu est saint. Il est souverain, il est puissant. On connaît bien le livre de Jonas. Les gens parlent du livre de Jonas, mais surtout du grand poisson. Mais le livre de Jonas nous révèle plus la grandeur de Dieu. Non pas la grandeur du poisson, mais la grandeur de Dieu. Et on le voit parce que on voit comment Dieu agit. Mais aussi extraordinaire que puisse être chacun de ces miracles et tout ce que Dieu fait qui nous révèle la grandeur de Dieu. L'une des révélations vraiment les plus édifiantes et inspirantes que nous avons dans ce livre se trouve au chapitre 2 que Dominique vient de lire. La grandeur de Dieu se voit plus particulièrement dans ce livre, enfoui dans l'Ancien Testament, sur la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu. C'est le thème central du livre. Et en plein milieu du livre, rendu au chapitre 2, vers la fin du chapitre 2, se trouve ce verset qui est vraiment un pont qui tient toute l'histoire ensemble. Et c'est le thème central de tout le livre de Jonas. Et c'est sur la grâce. Ça se trouve au verset 9. Alors, Jonas, chapitre 2, verset 9, qui dit ceci. « Ceux qui s'attachent à ce qui est vain, c'est-à-dire à des idoles, abandonnent la grâce, qui en fait est à eux. Dieu offre une grâce. Ceux qui s'attachent à ce qui est vain abandonnent la grâce. Quant à moi, dit Jonas, je t'offrirai un cri de reconnaissance, un cri d'action de grâce. Le salut vient de Dieu. Le salut vient de l'Éternel. » Rappelons-nous le contexte. Dieu appelle Jonas pour qu'il aille prêcher à Ninive. Ninive était une ville violente. Elle était reconnue. C'était le pire ennemi, vraiment, d'Israël. Reconnue pour sa débauche, pour sa violence. Il démembrait vraiment leurs ennemis qu'il faisait captifs, les prisonniers, les brûlait vifs. Ils agissaient avec beaucoup de violence. Et Jonas, Dieu appelle Jonas pour aller prêcher à la ville de Ninive et leur annoncer que le jugement s'en vient. Pour, au bout du compte, pour les sauver, Dieu espère que le peuple de Ninive se convertisse et se repente de leur méchanceté, de leur péché, et vienne à Dieu. Alors, Dieu offre cette grâce à Ninive, ce peuple qui était méchant, pécheur, débauché, violent, qu'ils se tournent vers Dieu, se repentent de leur péché, s'humilient devant Dieu, et vraiment viennent à lui. Et voilà que Jonas ne veut rien savoir, absolument rien. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de s'en aller dans le nord-est, lui demeurait pas loin de Nazareth, au nord d'Israël, et Dieu l'appelle à aller au nord-est, aller dans la section, dans le territoire de l'Irak aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout à fait l'opposé. Il va prendre un bateau, il va s'en aller dans la direction vers l'Espagne, qui était très loin, un voyage qui prenait plusieurs et plusieurs mois. Il s'en va loin de Dieu. Lui, vraiment veut rien savoir. Jonas ne veut pas offrir, ne veut pas aller prêcher à Ninive, parce qu'il connaît Dieu. Il sait comment Dieu est. Mais même s'il sait que Dieu est compatissant, qu'il va leur offrir le pardon, Jonas ne réalise pas l'ampleur de la grâce. Il a une mauvaise compréhension, une mauvaise vision de la grâce, particulièrement dans sa propre vie. Il prenait des choses pour acquises pour lui. Il se trouvait supérieur aux gens de Ninive et toute la Syrie. Il ne veut pas offrir cette occasion pour eux de se tourner vers Dieu. Jonas avait besoin de mieux saisir et comprendre la grâce de Dieu, l'ampleur, l'étendue, la vraie signification de la grâce de Dieu. Sinon, il aurait accouru pour leur offrir ce message, mais il ne voulait rien savoir. Jonas embarque dans ce bateau, il veut fuir loin de Dieu, veut rien savoir de Dieu. Dieu va envoyer une tempête très violente, très menaçante. Tout le monde sur le bateau risquait de chavirer et de mourir et de couler, de se noyer. Et il est devenu évidemment évident que c'était Jonas la faute et que Dieu était en train de pourchasser Jonas, ne voulait pas le laisser tranquille. Il voulait aller le prendre pour le former, pour l'éduquer, pour lui montrer, pour se révéler encore davantage à lui. Et là, il y a cette grande tempête, finalement, on jette Jonas à l'eau. Et Jonas, la tempête se calme, mais Jonas essaie de survivre. Il nage, il essaie de revenir, et on le voit, c'est Colin Smith qui, dans son livre sur Jonas, fait l'observation que Jonas n'a pas tout de suite coulé. Il s'est battu un peu, et c'est intéressant parce que on penserait qu'en sautant dans l'eau tout de suite, il me semble que c'est un peu l'impression qu'on a, que tout de suite, Dieu va envoyer le poisson pour l'attraper, l'avaler, pour le sauver. Mais ce n'est pas le cas. Colin Smith fait l'observation par des versets pour démontrer que Dieu a laissé Jonas couler tranquillement et descendre, puis il s'est battu et tout ça, puis il a descendu, il a essayé évidemment de sûrement prendre de l'air et de se battre. Mais regardez bien ce que ça dit au verset 6, chapitre 2, verset 6, qui dit « L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie, l'abîme m'a enveloppé, les algues, il est rendu aux algues, s'enroulaient autour de ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. » il n'est plus à la surface. Dieu l'a emmené jusqu'au fond de l'eau où il ne pouvait plus s'échapper. Il n'y avait aucun moyen de se sauver. Il était perdu, aucun espoir, plus de force, impuissant. Et là, finalement, il baisse les bras. Et c'est à ce moment-là, Dieu envoie le poisson. Ça s'est fait quand même relativement vite parce qu'à un moment donné, tu as tant de secondes à pouvoir respirer, tout ça. Mais quand même, il coule. Il coule et Dieu le laisse couler. Et parfois, ça arrive. Parfois, le Seigneur permet qu'il y ait des situations, on n'aimerait pas ça. On n'aime pas ça se retrouver dans une situation où on commence à couler. Des fois, on se retrouve dans une situation où la tête est là, puis on essaie de respirer, là, puis on étouffe. C'est des épreuves comme ça qui nous frappent. Et des fois, on ne s'en attend même pas, ça nous tombe dessus. Mais des fois, le Seigneur permet ces choses-là. Il permet que l'on coule un peu et qu'on puisse vraiment s'abandonner à lui. Où on dit, Seigneur, vraiment, là, je ne suis plus capable, je te remets ma vie entre tes mains, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Et parfois, Dieu va permettre, c'est juste dans la tempête, c'est juste dans ces temps-là où on commence à couler, que là, on commence à s'humilier en dedans. Et Dieu permet ces choses-là parfois, parce qu'il veut nous former, il veut former son serviteur. On se demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais ça l'était pour Jonas. Son cœur s'était endurci. Et ça prenait vraiment une intervention extraordinaire pour changer son cœur. Dieu avait tout un avenir pour Jonas. Si Dieu voulait se servir de Jonas d'une façon tout à fait puissante à Ninive et faire un réveil tout à fait extraordinaire et changer un pays même, une ville complète avec plusieurs milliers de personnes, si Dieu voulait se servir de Jonas, il fallait tout d'abord qu'il change son cœur. Et si Dieu permet que des fois on commence à couler, puis on se retrouve on est en train vraiment de se noyer, c'est parce que parfois Dieu permet ces choses pour nous former, pour briser ce cœur qui est rendu endurci, afin d'attendrir notre cœur et le rendre plus malléable, plus utile entre ses mains, afin qu'on puisse être un serviteur utile que Dieu va pouvoir utiliser pour accomplir de grandes choses et toucher des vies autour de nous. Et c'est ce que Dieu voulait faire dans la vie de Jonas. Jonas n'aurait jamais été ce qu'il est devenu sans la tempête, sans les puissantes vagues qui l'ont écrasé puis qui l'ont fait tranquillement couler. Sous la puissante main de Dieu, la tempête et les vagues, Jonas va commencer à crier à Dieu. Et c'est vraiment au chapitre 2 que ça arrive. Et Jonas est très conscient en passant que c'est Dieu qui l'envoie là. Intéressant parce que c'était les marins qui l'ont jeté par-dessus bord. Mais il n'accuse pas les marins, n'accuse pas personne. Il dit, c'est toi, Seigneur. Il sait que c'est Dieu qui l'a emmené là. Et Jonas, nous lisons au verset 4, dans chapitre 2, il dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer. Les courants m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Avez-vous remarqué que Jonas n'est pas amer, aucune amertume ici. On voit un cœur qui est... Il sait que Dieu est en train de le former, le prendre. Il sait qu'il a été sauvé par Dieu. Il ne mérite pas ça du tout. Il est ramassé par ce poisson et c'est Dieu qui l'envoie. Et son cœur change. Son cœur commence à changer. Parfois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie et on commence à être amer contre Dieu. On a la colère contre Dieu. Mais pas Jonas. Jonas avait compris. Il avait saisi ce que le Seigneur voulait lui apprendre. Vous et moi, là, on aurait probablement congédié Jonas avec son attitude. On aurait dit, Jonas, c'est pas le bon gars. Regarde, il veut rien savoir. Il veut même pas. Dieu l'appelle à aller prêcher là-bas. Puis, il refuse. Il s'en va. Nous, on l'aurait mis dehors. Hein. On aurait fait comme Donald Trump. You're fired. Hein. On l'aurait mis dehors. On aurait dit, ça n'a pas de bon sens. Mais vous savez quoi? Dieu ne le met pas dehors. Dieu ne le congédie pas. Dieu va prendre pourtant des pierres, des lapeaux de pierre qui étaient impulsifs, et il va s'en servir pour faire avancer son œuvre. Dieu va prendre des hommes comme David, qui étaient tout à fait imparfaits, qui ont fait des péchés dans leur vie, mais Dieu va se servir de ces hommes-là et de ces femmes-là. Dieu va se servir de Paul qui tuait des chrétiens. Voyez-vous, Dieu est un Dieu de grâce. Il accomplit son œuvre à travers les faibles, parfois même les moins qualifiés. Et Dieu n'abandonne pas Jonas, il ne congédie pas Jonas, il le prend où il est et il le forme. Et comment il le forme? En lui envoyant d'abord une tempête, en le faisant couler, puis à quelques secondes de la mort, Dieu va le sauver. Au verset 1, qu'on a lu tantôt, là, chapitre 2, verset 1, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et pouvez-vous imaginer ça? 3 jours et 3 nuits, il n'y a pas de lumière, pas de TV, absolument rien, pas de compagnon, tout seul dans le ventre. Il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas d'iPod, absolument rien. Tout ce qu'il y a, c'est quoi? C'est Dieu. Dieu, il a une personne avec lui, Dieu. Et là, il commence à réfléchir, à méditer, à réfléchir sur son propre péché, sur son attitude. Et il y a quelque chose qui s'opère tranquillement dans sa vie, puis c'est la grâce de Dieu. Calvin, qui s'arrête sur ce qui s'est passé dans la tête de Jonas pendant ces 3 jours et 3 nuits, fait l'observation. Jonas a été emmené à l'écart du bruit. Il est emmené à l'écart, exilé du monde, où il fait noir. Il est dans la noirceur, il est comme dans une prison. Mais on réalise en lisant le livre que ce n'est pas une prison, dans le fond. C'est un hôpital pour son âme, où Dieu est en train de prendre soin de son serviteur dans les profondeurs de la mer. Et Dieu le protège. Le ventre de ce poisson, dans le fond, est son protecteur. Et Dieu est en train de former son serviteur. Il commence à opérer sa grâce dans sa vie. Et là, Jonas va commencer à offrir des actions de grâce à Dieu. Tu parles d'un endroit pour offrir des actions de grâce. Nous, on est dans le confort ce matin, on célèbre l'action de grâce en fin de semaine. Voici une action de grâce qui était vraiment différente dans le ventre du poisson. Et Jonas est là, il offre des actions de grâce. Même, il dit, je vais t'offrir des cris de reconnaissance. Et c'est un magnifique psaume qui sort de la bouche de Jonas. C'est une prière d'action de grâce. Et l'apogée de sa prière se trouve au verset 9 que nous avons lu tantôt. Ceux qui s'attachent à des idoles, alors ce qui est vain, ceux qui s'attachent à des idoles, abandonnent la grâce qui est à eux. Quant à moi, je t'offrirai un cri de reconnaissance. Le salut vient de l'Éternel. C'est à ce moment-là que le poisson le relâche. Justement à ce moment-là, juste là, que le poisson le relâche. C'est comme s'il a appris sa leçon. C'est là qu'il est relâché, car il peut être relâché à ce moment-là. Il peut être la lumière à Nénive et aller prêcher. Il est préparé maintenant. Il peut aller prêcher à Nénive. Et on doit être honnête, c'est un homme de Dieu comme Jonas, qui parlait face à face avec Dieu, qui était un prophète. Si un homme comme lui, si un tel homme pouvait ne pas saisir l'ampleur de la grâce de Dieu au point d'affecter sa vie, sa propre vie, combien plus forte raison, nous aussi, on est susceptible à ne pas comprendre tout à fait l'ampleur de la grâce de Dieu. Nos problèmes les plus graves sont parfois causés par notre ignorance de l'ampleur de la grâce de Dieu. Et c'est le point du livre, c'est le message du livre, c'est ce que le livre veut nous faire comprendre. Et tant qu'on n'arrive pas à saisir la grâce de Dieu, l'ampleur, l'étendue de la grâce de Dieu, nous ne deviendrons jamais ce que l'on peut devenir, tout comme Jonas. La grâce de Dieu, c'est un peu comme un château que tu vas visiter. En Europe, il y a plusieurs châteaux. Tu rentres dans un château, tu commences, tu fais juste entrer, tu rentres et tu penses avoir tout vu, tu penses avoir fait quelques étages et tout ça. Et tout d'un coup, il y a une porte et tu ouvres la porte et tu rentres dans une autre aile du château qui est encore plus grand, plus immense que ce que tu as visité jusque-là. Mais la grâce de Dieu, c'est comme ça. La grâce de Dieu est tellement grande, ample, elle est tellement magnifique qu'on ne cesse de continuer à apprendre la grâce de Dieu. Et chaque fois que l'on découvre d'autres aspects de la grâce de Dieu, ça nous propulse, ça nous incite à grandir, ça nous fait grandir, ça nous emmène à d'autres sommets. Ça nous énergise, ça nous donne du zèle, ça nous donne de la passion pour Dieu. Et ça commence au début, lorsqu'on dit oui à Jésus-Christ. Quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur, lorsqu'on place en lui notre confiance. Tout commence là. C'est là qu'on entre dans le château de la grâce de Dieu. Quand on saisit la grâce de Dieu pour la première fois, on commence à changer. C'est là que ça commence, les changements. Et c'est vraiment la différence entre la foi chrétienne et la religion. La grâce de Dieu, c'est l'essence de l'Évangile. Colossiens 1, 6, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, l'Évangile est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier. Et il porte des fruits et progresse. Alors, l'Évangile porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Donc, vous avez commencé à porter du fruit, l'Évangile a commencé à porter du fruit le jour où vous avez connu, vous avez commencé à saisir la grâce de Dieu. Une autre façon de parler de la nouvelle naissance, on pourrait dire, il y a des expressions comme la nouvelle naissance qui parle de ce jour-là où tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ. Tu es devenu un enfant de Dieu, où Dieu t'a adopté, tu es devenu un chrétien. Eh bien, une autre expression pourrait être le jour où j'ai compris la grâce de Dieu. Une autre façon de le dire, ça reflète ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici dans Colossiens. On ne peut pas appartenir à Dieu tant et aussi longtemps que l'on ne comprenne pas la grâce de Dieu. Pas dans toute sa splendeur. Toute notre vie au complet, on va grandir à comprendre l'ampleur. Mais tu as besoin de comprendre un peu la grâce de Dieu qui t'est faite par Jésus-Christ, qui est allé à la croix, si tu veux avoir la nouvelle naissance. Depuis le premier jour où tu comprends la grâce de Dieu, l'Évangile commence à porter du fruit dans ta vie. Quand on saisit cette vérité-là, ça nous change. Et c'est un bel exemple qu'on a, c'est avec Martin Luther. Martin Luther était un professeur, il enseignait la Bible. C'était un professeur de théologie. Mais on dit qu'il était posé, pondéré, calme, jusqu'au jour où il a compris, il a saisi la grâce de Dieu. Imaginez, il enseignait la Bible, il enseignait la théologie, mais il n'avait pas vraiment saisi la grâce de Dieu. Et on raconte que lorsqu'il a saisi, il a commencé à comprendre la grâce de Dieu, il est devenu un lion. Il enseignait toujours la Bible, mais cette fois-ci, c'était complètement différent. Il enseignait avec une passion, avec un zèle, c'était comme un feu. C'était plus qu'une passion d'enseignant, là. C'était plus profond que ça encore. Il y avait un feu qui était là, un feu sacré là, qui était là, qui l'incitait. Il prêchait, enseignait comme jamais auparavant. Sa vision avait changé, elle venait de changer. Et c'est ce que Jonas avait besoin de saisir encore plus. Il n'avait pas réalisé l'ampleur et la profondeur de la grâce de Dieu. Et c'est la raison qu'il, entre autres, qu'il ne comprenait pas le besoin d'aller prêcher à Ninive. Le livre de Jonas est donc sur la grâce. Le chapitre qu'on vient de lire est sur la grâce. Et la prière de Jonas est sur la grâce. Alors, c'est quoi la grâce de Dieu? Mais la grâce de Dieu, comme on doit la comprendre, telle qu'elle nous est révélée et enseignée dans la parole de Dieu, la grâce nous laisse entrer dans la présence de Dieu sans qu'on le mérite. C'est comme ça qu'on doit comprendre la grâce, et c'est de cette façon que la grâce nous est présentée dans les Écritures. Le mot « grâce » signifie une faveur. C'est une faveur qui nous est faite, qu'on ne mérite pas, et que la personne qui nous l'offre n'est pas tenue de la faire. Ça, c'est la grâce telle que la parole de Dieu nous la révèle. Alors, c'est une grâce qu'on ne mérite pas. C'est, la grâce est de pouvoir entrer là où on n'a pas le droit d'entrer, mais une faveur nous est faite qui nous donne la permission d'entrer. Et cette permission qui nous est offerte, qui nous est donnée par une personne, bien, cette personne-là n'est pas obligée de le faire. On a un bel exemple ici avec Ésaü et Jacob dans l'Ancien Testament. Maintenant, Jacob avait trompé Ésaü, son frère. Il avait manipulé, servi de la vulnérabilité de son frère un jour pour aller chercher son droit d'aînesse. Et plus tard, il va même le tromper, va se déguiser, va manipuler son père pour aller arracher la bénédiction que revenait à son frère et aller la prendre en se déguisant. Et là, c'était la colère. Et il a fallu qu'il s'enfuit. Il méritait la mort pour ce qu'il avait fait. Et il est parti, il s'est enfui des années, des années, des années. Et un jour, et c'est la fameuse journée où c'est les retrouvailles, il va revoir son frère et il envoie sa famille, il envoie des cadeaux et tout ça, des présents. Et qu'est-ce qu'il va demander à Ésaü? Il va justement lui demander la grâce de l'accepter dans sa famille. Qu'il entre, qu'il pénètre dans la famille et soit accepté dans la famille d'Ésaü. Et le mot « grâce » est utilisé justement. Et c'est une belle image de la grâce. Nous lisons justement dans Genèse 33, verset 8, « Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? » Alors, il y avait des cadeaux et tout ça. Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » À trouver grâce. Je veux être accepté. Je te demande cette faveur. Je le sais que je ne le mérite pas. Je mérite que ta colère, que tu me juges, que tu me châties, que tu m'exclues, que tu me rejettes, c'est ce que je mérite. Mais je te demande de m'accorder cette grâce de me laisser entrer, d'être accepté dans ta famille. Alors, la grâce de Dieu comprend ces deux aspects. La grâce de te laisser entrer dans la présence de Dieu. Comme Jacob qui demandait la faveur, la grâce d'entrer dans la famille d'Ésaü, même s'il ne méritait pas. La même chose, Jonas, chapitre 2, verset 7, nous lisons, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel mon Dieu, ma prière est parvenu jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. » Le temple est la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Jonas est en train de dire? Moi, dans le fond, je méritais de mourir, je méritais ton jugement, mais tu m'as sauvé, tu m'as épargné. Tu m'acceptes dans ta présence. Le temple, c'est la présence de Dieu. Tu m'acceptes, tu acceptes que je sois proche de toi. C'est ça le temple, c'est la présence de Dieu. Jonas saisit la grâce qui lui est faite. Dieu le sauve de la mort par ce grand poisson. Jonas sait qu'il a péché, mais il dit, « Tu m'acceptes. Tu m'acceptes dans ton Saint-Temple. » Et ce temple qui est la présence de Dieu. En d'autres mots, tu me laisses m'approcher de toi. Tu m'as fait entrer. Et la grâce, c'est Dieu qui se laisse approcher. Si proche qu'il t'accepte dans sa famille, dans sa demeure, et prend soin de toi. Tu es chez eux, c'est chez lui, il t'a accepté, il t'adopte dans sa famille, il prend soin de toi, il pourvoit tes besoins, il répond à tes prières, il te guide, il va contrôler même les événements dans ta vie pour les rendre favorables à te faire grandir en lui. Et c'est vraiment ce que l'on cherche au fond de nous, n'est-ce pas, d'être accepté, mais d'être accepté à un niveau beaucoup plus profond, pas superficiel, pas juste faire partie de la gang, mais vraiment, au fond de nous, on veut être accepté. Mais c'est seulement Dieu qui peut remplir ce vrai besoin-là, ce besoin qui se trouve au fond là, de nous, dans notre cœur, dans notre âme, cette soif d'amour, d'acceptation, au niveau où ça compte, où ça va faire vraiment une grosse différence. On pense aux vedettes de cinéma qui ont tout vraiment, qui ont la gloire, qui ont l'argent, les honneurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être ceux qui ont des cheveux gris, vous allez vous rappeler d'elle, évidemment. Judy Garland, c'est une actrice de cinéma dans les années 50, considérée par l'American Film Institute comme la 8e meilleure actrice de légende du cinéma, Judy Garland. On la connaît bien, hein, vous savez, pour le film, quoi? Magicien d'Oz, absolument. Elle a remporté l'Oscar pour la meilleure jeune actrice de l'année. Le film va devenir d'ailleurs un des films les plus vus de l'histoire du cinéma. Elle va apparaître dans plusieurs comédies musicales à travers les années. Des succès après succès après succès. Mais alors qu'elle va connaître en pleine gloire, alors qu'elle connaît la gloire, les honneurs, l'argent, tout, elle va devenir toxicomane. Si bien qu'à 28 ans, l'alcool et les médicaments la rendent tellement ingérable que la MGM va même rompre son contrat, va mettre fin à son contrat, alors qu'elle est dans la gloire. Qu'est-ce qui rend une personne si malheureuse? Elle a fait une tentative de suicide. Voici une grande vedette qui reçoit les éloges de milliers de personnes. Elle a reçu des Oscars, des prix. L'argent, l'amour, la gloire, tout ce que l'on pourrait espérer, au fond. Mais elle sombre dans la drogue, dans l'alcool. Puis à 47 ans à l'ombre, elle va mourir d'une surdose que l'on croit être accidentelle. 47 ans. Rien de tout ce qu'elle avait pouvait remplir ce cœur qui cherchait l'amour. Rien, ni l'argent, ni la gloire, ni le succès, ni les éloges, ni des milliers de fans à travers le monde. Rien ne pouvait combler ce vide qu'il y avait là dans son cœur. On a besoin de comprendre que l'acceptation et l'amour que l'on recherche vraiment au fond de nous, c'est seulement Dieu qui peut combler cet amour-là. C'est mettre beaucoup de pression chez les couples d'ailleurs. Il y a des gens qui auront, et c'est un des gros problèmes, un fléau dans le mariage, où tu vas avoir des attentes qui sont là, et avec les années, on a vu, tu sais, on rencontre des couples et des couples et des couples, et tu sais, beaucoup de couples, des centaines de couples avec les années, mais on réalise une chose, finalement, c'est à quelque part, on a des attentes, et quand tu grattes, au fond, les attentes, d'accord, là, on ne parle pas d'attentes normales, il y a des attentes qui sont normales, tu sais, ta femme va apprécier si tu fais la vaisselle. Ça, c'est correct, ça. Aider dans la maison, puis tout ça, puis vice-versa, on s'entraide et tout ça. Absolument. On comprend ça. Mais avec les années, on réalise qu'il y a certaines attentes qui mettent beaucoup de pression sur le conjoint parce qu'on réalise que ces attentes-là ne peuvent pas être comblées sinon que par Jésus-Christ lui-même. Et je vous le dis, j'ai rencontré des couples à travers les années, là. Et ça. Hier, j'ai rencontré un couple hier. Et on me racontait ça. Et j'écoutais ce qu'ils me disaient. Et je réalisais que, dans le fond. Et c'est ça, la personne sentait que c'était beaucoup. Parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et oui, tu peux faire un tas de choses pour baisser la tension dans le couple. Et je comprends ça. C'est pas simpliste comme ça. Il y a des choses, il y a souvent, on est responsable, puis il faut s'ajuster, on veut grandir comme mari, comme épouse, on veut s'améliorer au fil des années. Oui, oui, absolument. Il ne faut pas lancer sa rêve, dire, « Ah, regarde, moi, je ne peux rien faire. Va voir ton Dieu. » Je ne parle pas de ça ici. Là. Je ne parle pas de ça. Là. Mais au bout de ligne, il y a quelque chose que seulement Dieu peut combler. C'est là. C'est cette acceptation, cet amour que tu as besoin. Là où ça compte. Là où ça va faire vraiment une différence. Et ça, c'est le Seigneur qui peut te le donner. Et certaines personnes pensent que c'est par des efforts, en faisant nos efforts, qu'on peut gagner cette grâce-là. Non, ce n'est pas le cas. On est accepté dans sa présence, uniquement par la grâce gratuite de Dieu à travers Jésus-Christ, ce qu'il a fait à la croix. Jonas ne méritait pas d'être sauvé. Au contraire, mon ami. Mais Dieu agit avec grâce à son égard, à son endroit, et il fait la même chose pour nous autres. Lorsque tu découvres cette grâce, ça va te changer. Ça va te changer. Ça va te changer, ça va changer ton attitude envers les autres. Ça va changer ton attitude envers ton épouse, envers ton mari. Ça va avoir un impact sur toi, c'est sûr. Tu es accepté. Dieu t'a accepté. Alors, la grâce, c'est d'abord la faveur de nous laisser entrer dans la présence de Dieu. Et c'est aussi nous laisser entrer sans qu'on le mérite et sans que la personne qui nous fait cette grâce soit tenue de le faire. Ça, c'est la vraie définition de la grâce. La doctrine de la grâce, comme on peut la voir dans les Écritures. La grâce nous laisse entrer dans la présence de Dieu sans qu'on le mérite. Imagine-toi, tu as un voisin. Tu as un voisin, je pourrais dire que j'en ai un comme ça probablement, mais j'ai un voisin, mettons tu as un voisin, puis il monte la musique. La musique est très forte chez eux. Puis c'est un semi-détaché, t'es collé à côté. Tu sais, fait que c'est un semi-détaché, puis ici, le système de son est juste au bord du mur, puis ça donne que toi, tu es juste au bord. Tu essaies de dormir, tu n'es pas capable, la musique est très forte, tout ça. Tu t'en vas le voir doucement, tu es gentil, puis toi, tu as des enfants, puis des petits-enfants qui ont besoin de dormir, tout ça, tu t'en vas ton voisin, puis tu dis, est-ce que ça, tu sais, avec toute la délicatesse du monde, tu mets des gants blancs, tu as deux épaisseurs, tout ça, tu es gentil. Puis est-ce que ça vous dérangerait? C'est pas vraiment pour moi, mes enfants sont pas capables de dormir, tout ça. Ça serait-il possible juste de baisser un petit peu la musique? Juste une petite affaire. Tu sais, ça va aider mes enfants. Puis on l'apprécierait tellement, tout ça. Là, tu t'en vas chez vous, la musique, elle monte. Il grimpe la musique. Il hausse la musique. Elle est encore plus forte qu'elle n'a pas été. Il me semble qu'elle ne l'a jamais mis aussi forte que ça, d'ailleurs. Elle est forte. Toi, une semaine après, tu as des visites et tout ça, tu montes un petit peu la musique. Il ne vient pas te voir, il appelle la police. La police est rendue chez vous. Tout d'un coup, ton voisin tombe malade. Et là, ce que tu fais, tu vas chez eux, tu commences à l'aider, tu passes à tondeuse. Puis tu t'occupes de son terrain, tu arroses ses plantes, ses fleurs et tout ça, tu es gentil avec, tu fais un peu que ta femme prépare des plats, puis tout ça, tu y apportes ça. Est-ce qu'il mérite ça? Absolument pas. Bien ça, c'est la grâce. C'est ça la grâce. C'est exactement ça, encore plus avec le Seigneur. Mais c'est ça la grâce, c'est ça l'idée de la grâce. C'est quelque chose que tu ne mérites pas, tu reçois, puis la personne qui te fait cette grâce n'est pas tenu de le faire. Pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de faire tous ces marques de bonté, ces gestes de bonté à l'endroit de ton voisin. Pas obligé. C'est une grâce que tu lui fais. Et de la même manière, la grâce de Dieu nous est offerte gratuitement. Dieu n'est pas tenu de le faire. Et c'est gratuit. On ne le mérite pas. Voici la doctrine de la grâce. Aucun être humain n'est si bon qu'il n'a pas besoin de la grâce. Et aucun être humain n'est si mauvais qu'il ne peut trouver la grâce. Jonas a compris. Et malgré que je ne le mérite pas, il dit, dans cette prière, tu m'acceptes dans ton temple. Tu m'acceptes dans ta présence. Tu acceptes que je m'approche de toi. C'est la grâce. J'étais comme ça, dit Jonas. Je ne méritais pas ta faveur. J'étais pécheur, mais... Mais tu m'as fait grâce, tu m'as reçu, tu m'as accepté, tu m'as accueilli, tu m'as aimé, tu m'as accueilli. Et ça fait une méchante différence entre toi et moi, ça. Pense-y de savoir que tu es accepté, accueilli, aimé, pardonné par Dieu. Ça a tout un impact, ça a des incidences sur toi, ça. Je suis pleinement accepté. Je suis valorisé et accueilli dans sa famille. En dépit de ce que je suis, j'ai un Père céleste qui m'aime. J'ai la personne pour qui c'est le plus important de l'univers d'être accepté, puis lui m'accepte. Est-ce que ça n'a pas un impact sur nous autres, ça? La personne la plus importante de l'univers m'accueille, m'aime, m'accepte. Écoute, il n'y a pas d'adresse après lui, là. Ça arrête là. La personne la plus importante de l'univers, lui m'accepte, m'aime, m'accueille. Et permet que je sois proche de lui. Hey, c'est fantastique, ça. La grâce nous laisse entrer dans la présence de Dieu sans qu'on le mérite et sans que Dieu soit tenu de le faire. Alors, comment on reçoit la grâce? Bien, la grâce, c'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est quelque chose qui se reçoit. On revient à Colossiens 1:6 qui dit ceci, l'Évangile est parvenu jusqu'à vous. L'Évangile s'est rendu jusqu'à vous. Tout comme dans le monde entier, il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu, alors compris, saisi la grâce de Dieu dans la vérité. Une autre version, la Bible de Jérusalem dit, l'Évangile fructifie et se développe. Chez vous, il fait de même depuis le jour où vous avez appris, compris dans sa vérité la grâce de Dieu. Alors on commence à saisir quand on commence à comprendre jusqu'où Dieu est allé dans sa grâce pour nous faire entrer dans sa famille et nous accepter. je commence à saisir l'ampleur de la grâce de Dieu quand je commence à comprendre jusqu'où Jésus s'est éloigné de Dieu afin de m'approcher. Et c'est ce que dit Éphésiens 2:18. Il dit à travers lui, Jésus-Christ, en effet, nous avons les uns et les autres accès, et ça c'est un terme qui est employé par celui qui t'amenait dans la présence du roi. Tu ne pouvais pas juste rentrer là, dans le château puis visiter le roi comme ça. Tu t'annonçais, tiens, moi j'arrive, ça me tente ce matin, là, j'ai rien à faire, je vais aller visiter le roi. Tu ne peux pas faire ça en Angleterre. Tu ne peux pas juste aller dire, tiens, ce matin, je n'ai rien à faire, on fait un voyage, on prend l'avion, ça, on va aller voir la reine d'Angleterre. Ça ne marche pas comme ça. Ça prend quelqu'un que tu connais, c'est un contact. Bien, la personne qui t'entrait, qui t'emmenait dans la présence du roi, c'est le terme employé ici pour Jésus-Christ. À travers lui, j'ai accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Certains voient leur péché comme si c'était tellement insignifiant qu'ils ne peuvent pas saisir la grâce de Dieu. Tu parles à certaines personnes, puis le péché pour eux autres, ça n'existe même pas. Ils n'aiment pas ça du tout. Habituellement, ces personnes-là n'aiment pas ça qu'on parle de péché, de jugement, de la colère de Dieu. Ils vont même dire que Dieu est injuste et tout ça. Ils n'aiment pas entendre parler de ça. Parce que pour eux autres, le péché, c'est insignifiant, ça compte pas. On n'a pas de péché, c'est pas... Mais eux autres ne peuvent absolument pas, et ils ne saisissent absolument pas l'ampleur de la grâce de Dieu. Parce que tu ne peux pas, en diminuant la sainteté de Dieu, en diluant la pureté de Dieu, veut pas, ça va diluer la grâce de Dieu. C'est ne pas saisir la grâce de Dieu que de penser comme ça. Ces personnes-là disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin de la grâce de Dieu non plus. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est comme des personnes, comme une personne qui est pauvre, mais qui se pense riche. Tu veux leur offrir un don, puis ils disent qu'ils n'ont pas de besoin. Alors, ils restent pauvres parce qu'ils se pensent riches. Maintenant, si certaines personnes ont une vision faible du péché, et ça c'est certain, ont une vision faible du péché, d'autres ont une vision trop faible de la miséricorde de Dieu. Alors, moi, je suis trop pécheur. Il ne me pardonnera jamais. Ça va des deux côtés. Soit que j'ai une vision trop faible du péché ou j'ai une vision trop faible de la miséricorde de Dieu. Mais le troisième groupe, c'est le groupe des enfants de Dieu. Ce sont les gens qui voient leur péché, ils voient leurs besoins, ils savent qu'ils sont des échecs spirituels, mais en même temps, ils voient la beauté de la grâce de Dieu. Amen. Et ces personnes voient la puissance de la grâce. Tu devrais voir un paysage avec un œil ou deux yeux. Tu n'as pas la même profondeur, la même perspective lorsque tu as deux yeux. Et tu as ces deux aspects-là dans la grâce. De comprendre la laideur de mon péché, que je ne mérite pas sa grâce, puis en même temps de réaliser à quel point il est gracieux à mon égard. C'est deux aspects, c'est deux niveaux que j'ai besoin de voir, c'est deux perspectives. Saisir l'ampleur de mon péché et saisir l'ampleur de la grâce permet la régénération du départ, ça commence là, la nouvelle naissance. Puis ça permet aussi ma croissance, ma sanctification. Regardez ce que Jonas affirme, il dit au verset 9, « Ceux qui s'attachent à des idoles abandonnent la grâce. Quant à moi, je t'offrirai un cri de reconnaissance. » Le salut vient de l'Éternel. C'est très fort comme principe. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, si tu veux avoir l'ampleur de ton péché, il te faut regarder les idoles de ta vie, les tasser, les écraser, les faire disparaître. Vous savez, les idoles, c'est quoi? C'est de mettre quelque chose de plus important que Dieu, affectionner quelque chose et le mettre à la première place dans ta vie. On a besoin de faire l'inventaire de notre vie. Qu'est-ce que j'affectionne le plus dans ma vie? C'est mon Dieu. Ça peut être un petit dé, comme ça peut être Dieu lui-même. Et je dois regarder les idoles de ma vie. Et ce que Jonas est en train de révéler, c'est tout à fait révélateur, c'est grand ce qu'il est en train de dire. C'est lorsque je laisse entrer des idoles dans ma vie, je me prive de la grâce que Dieu voudrait me donner dans ma vie pour me faire grandir et que je devienne tout ce que je pourrais devenir. Ces idoles empêchent la grâce de Dieu de manœuvrer dans ta vie. De te faire grandir, de te faire bouger et de faire connaître de grandes victoires. Écrase l'idole, sinon tu te prives de grâce qui pourrait être à toi. Vous remarquez comment Jonas ne cesse de voir le temple de Dieu dans sa prière. Il le voit au verset 5, il le dit, « Je me verrai encore dans ton Saint-Temple », verset 8, « Mon âme est embattue en dedans de moi, mais Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Jonas regarde le temple. Vous savez qu'à l'intérieur du temple, il y avait cette table de propitiation qui se trouvait juste au-dessus de la loi. La loi était placée dans l'arche. Il y avait la loi qui sont les demandes de sainteté, les obligations et tout ça, qu'on n'est pas capable de suivre, mais juste au-dessus, tu as cette table de propitiation où tu faisais couler le sang qui te permettait finalement d'avoir accès à Dieu. C'était par le sang. Et ça nous donne à penser justement à Jésus-Christ, qui s'est offert à la croix pour nous donner cet accès-là dans la présence de Dieu. Et on se voit maintenant dans le temple, dans la famille, adopté dans sa famille. Alors, Jonas ne voit pas seulement l'ampleur de son péché, il se souvient du temple, il se souvient des sacrifices, du sacrifice qui lui permet justement de couvrir ses péchés, comme substitut à ses péchés pour nous. Et là, Dieu est rendu propice. La colère de Dieu est apaisée, satisfaite par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui arrive quand tu découvres l'ampleur de la grâce de Dieu? Ton cœur va être rempli d'actions de grâce. C'est ce qu'on voit ici. Comment savoir si j'ai reçu la grâce de Dieu et je comprends la grâce de Dieu? C'est que mon cœur est rempli d'actions de grâce. Et c'est ce qu'on voit chez Jonas. Il dit, quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Plus on comprend et on saisit la grâce de Dieu, plus on va être dans la joie. Parce qu'on sait qu'on est à l'intérieur. On a été accepté. On fait partie de sa famille. On a été accepté par la personne la plus importante de l'univers. Le salut vient de Dieu, uniquement de Dieu. Alors, on veut écraser les idoles de nos vies. Et ce matin, il y a peut-être des idoles que toi, tu as besoin d'écraser dans ta propre vie. Demande à Dieu de te montrer. Est-ce qu'il y a une idole dans ma vie que j'ai besoin d'écraser, faire disparaître, afin que ta grâce puisse œuvrer, manœuvrer dans ma vie? Même l'apôtre Paul en a fait une prière. Je veux que Dieu puisse se magnifier dans ma vie. L'idée, l'image, c'est que je ne veux pas rien laisser dans ma vie qui pourrait ralentir l'œuvre de l'Esprit-Saint, la grâce de Dieu dans ma propre vie. Alors, écrasons nos idoles, faisons-les disparaître et faisons confiance au substitut qui est Jésus-Christ. Et cela va remplir notre cœur d'actions de grâce. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons tellement te remercier. Te remercier pour tout ce que tu as fait. Te remercier pour tes bontés. Te remercier de nous avoir acceptés. Même si on ne méritait pas faire partie de ta famille, tu t'es privé du plus grand trésor. Tu as vidé le ciel de son plus grand trésor, Jésus-Christ, afin qu'il vienne ici, qu'il soit rejeté, crucifié. Et tu l'as fait pour nos péchés, afin que nous puissions être acceptés dans ta présence et qu'on soit proche de toi. Alors, Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Nous te glorifions, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.